vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Crash Bandicoot Insane Trilogy. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du new jeu vidéo concernant un futur jeu Spider-Man. On parlera ensuite de la première téléportation quantique qui a été effectuée entre la Terre et l'espace. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on commence avec Crash Bandicoot Insane Trilogy. Donc c'est un jeu de genre action-aventure plateforme jouable en solo qui a été édité et développé par Activision et Vicarious Visions. Il est sorti le 30 juin 2017 en Europe et en Amérique du Nord et il est prévu pour le 3 août 2017 au Japon sur PlayStation 4. Crash Bandicoot Insane Trilogy est une compilation des trois premiers épisodes de la série remasterisée, à savoir Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot 3, Warped. Les graphismes ont donc été totalement refaits et quelques fonctionnalités ont été ajoutées, notamment le contre-la-montre pour les deux premiers épisodes. Le jeu est classé PEGI 7 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 6 sur 10 de la part de Gamekult. On aurait presque tendance à l'oublier parce que la chose ne fut jamais vraiment officielle, mais fut un temps où PlayStation avait sa mascotte. Née dans les années 90, la première console de salon de Sony s'est longtemps cherché un visage. Ou alors était-ce plutôt les joueurs qui avaient l'habituel de relier Sonic à Sega et Mario à Nintendo? PlayStation devait donc avoir sa mascotte. C'est ainsi que Crash Bandicoot, le héros d'une suite de jeux portant ce nom, est devenu la première icône de la PlayStation. 21 ans après sa naissance, Activision et Vicarious Visions lui rendent un bel hommage avec une collection de remasters au bon goût de pomme et que s'appelle Oreo Crash Bandicoot Insane Trilogy. Difficile de séparer l'histoire de la première PlayStation des baskets de Crash Bandicoot, le marsupial inventé par Naughty Dog s'est vite imposé comme le personnage phare d'une console qui pourtant n'en manquait pas. Comment cela a-t-il été possible? Sans doute parce que nous sortions à peine de l'âge d'or des jeux de plateforme et que manifestement chaque constructeur, chaque éditeur devait avoir dans sa ludothèque un platformer mettant en scène un animal anthropomorphique sympa. Des hérissons, des chats, des chiens, des chauves-souris, Crash en tant que Bandicoot répondait à cette demande, à cette habitude. Et puis le jeu était terriblement joli. Avec ses couleurs, son dynamisme et ses polygones, Crash Bandicoot donnait une très belle image de la console, un jeu cool pour ado cool. Même mourir, il y avait quelque chose d'amusant. Le jeu s'est tant et si bien imposé sur PlayStation qu'il a donné lieu à plusieurs suites et spin-off comme le fameux Crash Team Racing, un jeu de course très inspiré de Mario Kart 64. La bestiole en pantacourt a marqué de très nombreux joueurs et bien entendu, alors qu'elle fêtait ses 20 ans l'année dernière, Activision ne pouvait pas passer à côté d'une telle opportunité. L'éditeur américain a toutefois eu la bonne idée de ne pas remasteriser un seul jeu, mais bien trois, les trois premiers bien évidemment. La Insane Trilogy vous propose d'emblée de choisir entre l'un des trois Crash, donc bien entendu se dirige d'abord naturellement vers le premier jeu, mais notez qu'il est tout à fait possible de commencer par le second opus ou même le troisième. Le joueur est libre d'attaquer la trilogie comme il le souhaite. Quoi qu'il en soit, c'est en débarquant dans le premier niveau de Crash Bandicoot que l'on prend conscience de la réussite visuelle qu'est ce remaster. À vrai dire, il serait plus juste de parler de remake, car Vicarious Visions n'a jamais eu entre les mains le code source de 1996 et a donc été obligé de tout recréer à partir de rien. Une véritable performance, a fortiori lorsque l'on voit le résultat. La Insane Trilogy ne restera certes pas dans les annales de l'histoire du jeu vidéo pour ses graphismes, mais le rendu est tout de même très satisfaisant. C'est joli, c'est frais, c'est coloré et surtout ça reste fidèle aux jeux originaux. Certains joueurs estimeront que le jeu est plus terne qu'autrefois et en fait ils auront en partie raison. Les consoles actuelles sont capables d'afficher beaucoup plus de couleurs qu'une PlayStation. Les développeurs s'en sont donc servis pour enrichir et nuancer la palette de couleurs des trois Crash Bandicoot. Un mal pour un bien, on perd en fidélité ce que l'on gagne en confort visuel car nos yeux de 2017 n'auraient probablement pas supporté le résultat. Faut dire que plus là on avance dans l'âge et plus on est exigeant. En 1996, on avait apprécié la direction artistique du titre, la richesse de ses niveaux, les animations du personnage contrôlé. On retrouve tout cela 20 ans plus tard et c'est finalement tout ce qui compte. C'est probablement Crash Bandicoot 3 qui s'en tire le mieux grâce à ses voyages dans le temps et à la variété de niveaux que cela permet. Moyen-Âge, préhistoire, mille et une nuits, futur, les développeurs s'en sont donnés à cœur joie pour un résultat des plus satisfaisants. Une attention toute particulière a été apportée aux effets de lumière, tous très réussis, aux mis à part. Qu'elles soient représentées sous forme de flaques ou d'étendues plus larges, Le résultat est ici beaucoup plus contrasté. C'est souvent assez raté, notamment dans ce niveau où l'on contrôle Coco, dans une épreuve de jet ski qui est assez mal vieillie, soit dit en passant. Ce petit raté sur la phase de jet ski ne doit pas vous inquiéter, le reste de la trilogie a lui extrêmement bien vieilli. Si dans l'ensemble les phases en véhicule ne sont pas les plus excitantes, les phases de plateforme pure et dure n'ont pas pris une ride. La disposition des pièges, le timing, l'utilisation de l'espace dans le level design, tout est maîtrisé pour donner naissance à un jeu de plateforme très accessible, mais vite exigeant. Un peu comme tous les jeux de plateforme, genre Rayman, Donkey Kong, tout ça. C'est super bien, mais c'est super dur. C'est d'autant plus vrai que les sauts sont légèrement différents et il faudra les accompagner plus longuement qu'autrefois en maintenant la touche dédiée enfoncée. Une fois cette petite nouveauté intégrée, on progresse rapidement dans les niveaux se jouant de la mort qui attend à chaque saut, à chaque crevasse, à chaque ennemi. Crash Bandicoot avait cela de réussi qu'il parvenait à rendre la mort ludique. Comme dans le jeu original, chacun de vos échecs sera ponctué par une petite animation rigolote, toute reprise des jeux originaux. Donc on s'amuse à voir Crash découpé, brûlé, écrasé, avec toujours cet esprit Tex Avery très marqué. Crash Bandicoot a toujours été un cartoon et cela n'a pas changé. Le jeu exigeait beaucoup du joueur, mais avec des checkpoints bien placés et des ennemis au comportement très différent d'un niveau à un autre, la progression mêle défi et plaisir de la découverte pour former un cocktail détonnant auquel on devient vite accro. Finalement, une seule chose agace, les sauts qui parfois manquent de précision comme si la manette ne répondait pas bien, une minuscule latence qui dans certains cas pourra vous être fatale et forcément ça agace un peu. Seul, on cherchera bien entendu à avancer le plus loin possible et à terminer le jeu. Les joueurs les plus hardcore chercheront à faire les meilleurs temps, à briser toutes les caisses, trouver tous les secrets, et ils n'ont pas été oubliés. Avec des amis, on se fera passer la manette en cherchant à aller le plus loin possible. Crash Bandicoot n'a pas vieilli, le concept est trop efficace, trop maîtrisé pour cela. Bien entendu, la Insane Trilogy a un certain avantage, dont il s'est tiré parti, c'est le facteur nostalgie. Très clairement, le jeu devrait convenir à tous ceux qui l'avaient découvert à sa sortie ou peu après. Donc, j'ai parlé des graphismes tout à l'heure, mais on pourrait également parler des heures de la musique, que vous entendez, qui a été entièrement réorchestrée pour l'occasion, que ce soit le thème principal de la série ou la bande-son du jeu, avec ses percussions ou ses sonorités tribales. Le jeu exerce rapidement un charme magique sur quiconque a connu ces jeux il y a 20 ans. Les gemmes, les pommes, les caisses de TNT ou de nitro à éviter, on retrouve tous ces éléments avec un vrai plaisir, un plaisir qui échappera sans doute à ceux qui à l'époque étaient trop jeunes ou même pas encore nés. Même chose en ce qui concerne les méchants du jeu, ceux qui avaient adoré la série et ou Crash Team Racing seront forcément envahis par la nostalgie en affrontant Tiny, Pinstripe, Papu Papu, Dingo Deal et autres Dr. Engine et Reaper Roo. Des personnages que l'on avait un peu oubliés pour certains et que l'on redécouvre avec plaisir. Ce facteur nostalgie n'est pas à sous-estimer puisque si Crash Bandicoot Insane Trilogy porte en son sein trois excellents jeux de plateforme, le genre a largement évolué depuis et il est possible que certains joueurs ne soient pas sensibles à la formule. Vicarious Visions a pris le parti de ne toucher à rien, n'ajoutant comme nouveauté que la possibilité de jouer avec Coco dans les deux premiers épisodes. Un parti pris qui plaira à certains, là où d'autres préféraient peut-être un peu plus de nouveautés. La seule chose que l'on peut vraiment reprocher à la collection, c'est que le fait de passer d'un épisode à l'autre n'est pas aisé. En l'état, le joueur est obligé de quitter son niveau, de revenir au hub du jeu concerné, puis de revenir au menu principal, et donc d'endurer à chaque fois plusieurs temps de chargement. En termes d'ergonomie, on repassera, donc rien de dramatique bien entendu, mais l'ensemble aurait mérité plus de souplesse. Donc pour les points positifs, on a un jeu joli et respectueux du travail original, le feeling old school, un jeu toujours aussi exigeant, et trois jeux en un. Pour les points négatifs, on a une légère latence sur certains sauts et le fait de passer d'un jeu à l'autre qui devrait quand même être plus simple. La nostalgie y est sans doute pour quelque chose, mais très objectivement, il est difficile de ne pas reconnaître que ces trois Crash Bandicoot sont d'excellents jeux de plateforme. Certes, 20 ans plus tard, ils se montrent moins imaginatifs, moins surprenants, et la formule peut même paraître datée par moments, mais cette science du timing et du level design et le rythme qu'ils imposent aux joueurs n'ont pas disparu. Avec ses graphismes remis au goût du jour, sa musique et son humour, Crash Bandicoot Insane Trilogy sent bon les vacances. Les nouveaux joueurs resteront peut-être sur leur faim, mais les fans de la série redécouvriront avec plaisir trois jeux qu'ils ont adorés pour de bonnes raisons. Ce genre de plaisir intemporel, c'est la marque des grands jeux et ils sont bien peu à pouvoir se vanter d'une telle qualité. Voilà, du coup, on va pouvoir s'écouter la musique qui a servi pour le trailer du jeu, c'est Funk for Your Life, et on reviendra juste après. c'était Funk for Your Life, la musique qui a servi pour le trailer du jeu Crash Bandicoot Insane Trilogy. On va faire une petite pause publicité, on viendra juste après pour parler des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news jeux vidéo, d'une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top PlayStation 4. En cinquième place, on a The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En quatrième place, c'est Call of Duty Infinite Warfare, l'édition Legacy sur PS4, un jeu d'Activision Blizzard. En troisième place, c'est GTA V sur PS4, un jeu de Take-Two Interactive. En deuxième place, Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et enfin, en première place, c'est donc Crash Bandicoot Insane Trilogy sur PS4, un jeu d'Activision. Donc pour le top 3 Switch, donc je l'ai dit tout à l'heure, en première place, on a Mario Kart 8. En deuxième place, The Legend of Zelda. Et donc en troisième place, on a le jeu ARMS. Pour la Xbox One, en troisième place, on a Gears of War 4. En deuxième place, Tour de France 2017. Et enfin, en première place, Call of Duty Infinite Warfare, l'édition Legacy. Pour le top 3 PC, en troisième place, les gens aiment beaucoup le vélo, hein. Pro Cycling Manager 2017. En deuxième place, Overwatch Origins Edition. Et en première place, les Sims 4, l'édition standard. J'ai envie de vous dire, si vous aimez le vélo, allez donc en faire dehors. Ensuite, pour la Nintendo 3DS, en troisième place, on a Yo-Kai Watch 2 Phantom Buffy, en deuxième place, Super Mario Maker, et en première place, Pokémon Soleil. Le dernier top, c'est le top 3 PS Vita, avec en troisième place, Call of Duty Black Ops Declassified, en deuxième place, Farming Simulator 18, et en première place, Minecraft. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Les équipes d'Insomniac Games nous concoctent actuellement un nouveau jeu Spider-Man, très prometteur. Ces dernières semaines, les développeurs ont indiqué que les déplacements de l'homme-araignée seront immersifs et réalistes. Donc il est possible de le voir à travers les premières vidéos du jeu, que vous pourrez retrouver sur internet. Notre ami Spidey se balance librement avec sa toile à travers la ville de New York. La question qui se pose est alors, peut-on se balancer comme on le souhaite ou doit-on faire attention à ne pas tirer dans le vide? Il y a quelques semaines, Insomniac a confirmé sur Twitter que les déplacements sont basés sur les lois physiques et sur notre élan. Donc plus récemment, lors de la D23 Expo à Anaheim, le studio a ajouté que les balancements sont entièrement basés sur nos compétences. Donc voilà une excellente nouvelle qui promet une très bonne immersion dans l'univers du tisseur. S'il faudra manifestement prendre le coup de main, les sensations devraient être excellentes. Il n'y aura plus qu'à vérifier cela pas dans main l'année prochaine sur la PlayStation 4. Voilà. Donc il va falloir encore attendre un petit peu. On passe maintenant à la news technologie. Préparez-vous. Parce que c'est assez compliqué, c'est très scientifique. La téléportation quantique est l'un des grands sujets du moment en sciences physiques. Il y a une vingtaine d'années, ce phénomène relevait de la théorie. Aujourd'hui, les expériences vont bon train et en juin, une équipe chinoise a ainsi battu tous les records dans le domaine. La physique quantique est longtemps restée un domaine purement spéculatif. Aujourd'hui, les progrès techniques la rendent plus tangible, mais elle est toujours assez mal connue auprès du grand public. Pour expliquer le grand pas accompli récemment dans ce domaine, un petit retour sur les principales lois de la physique quantique s'impose. Donc la téléportation quantique découle avant tout de l'intrication quantique, le fait que deux particules subatomiques, donc comme les photons, puissent se comporter comme un seul système. Il s'agit d'une entorse au principe de localité, une explication peut être celle de variables cachées qui nous échapperaient. Donc ainsi, bien qu'éloignées, ces particules ont un effet l'une sur l'autre. La téléportation de type quantique n'a donc pas grand-chose à voir avec l'image que se font les amateurs de science-fiction. Il s'agit plus simplement de transmettre des informations de manière instantanée. Donc si on nomme ce phénomène téléportation, c'est parce que l'information ne peut pas être tout simplement copiée. C'est le théorème d'impossibilité du clonage quantique. Une fois que l'information est mesurée ou transmise, l'une des deux particules est détruite. Donc pour expliquer le principe plus simplement, prenons comme métaphore deux boîtes de Lego pour représenter ces particules. La première serait une construction et la seconde un tas de briques pas encore montées. La téléportation quantique se contentera de transmettre l'information, à savoir la structure de la construction de la première boîte à la seconde, et durant le processus, la première construction sera détruite. Donc autrement, la première boîte qui est construite va transmettre la construction à l'autre, elle va se détruire en même temps que l'autre se construit. Donc ça fait une téléportation, mais pas genre... comme ça. c'est très bien expliqué. Aucune brique de Lego n'est donc recréée, simplement la fonction de son assemblage. Jusqu'au début des années 1990, les principes de la physique quantique relevaient de la théorie. La première expérience de téléportation est effectuée en 1997 avec deux photons. Peu à peu, les moyens de transmission s'affinent avec l'usage de la fibre optique par exemple, ou l'utilisation de réseaux de communication préexistants jusqu'à se faire hors laboratoire en 2016. Et les distances s'allongent. En 2012, l'échange d'informations se fait entre deux îles des Canaries sur une distance de 143 km. C'est ce record que l'équipe chinoise de l'université de Hefei vient de pulvériser. Leur expérience est réellement révolutionnaire dans le domaine. Ils ont d'abord utilisé un satellite pour transmettre leurs photons, ce qui permet d'accroître la distance parcourue. Les particules sont maintenues intriquées plus efficacement dans le vide de l'espace et peuvent ainsi être envoyées plus loin. Le passage par l'air terrestre ou la fibre optique a en effet tendance à les désintriquer. Ainsi, les scientifiques sont parvenus pour la première fois à transmettre une information de la Terre à l'orbite terrestre à près de 500 km. La physique quantique promet des avancées phénoménales pour l'humanité si on est encore loin de la téléportation version Star Trek. Il se peut que ce genre de transmission simple soit le premier pas vers des formes de téléportation d'objets plus grands. Après tout, les corps les plus complexes sont constitués de ces particules subatomiques. Donc si on arrive à transporter les particules, au final, on devrait réussir à transporter un groupement de particules. C'est essentiellement dans le domaine de l'informatique que la physique quantique pourrait le plus bouleverser l'état actuel de nos techniques. D'abord parce qu'elle transmet l'information de manière instantanée. Celle-ci est en outre inviolable. Toute interférence avec l'un des photons serait visible pour l'autre, ce qui rend caduque un tel procédé, un pas de géant pour la cryptologie. Mais la téléportation quantique ouvre le champ de possible dans le domaine de la puissance possible des ordinateurs. Travailler au niveau du photon permet de repousser les barrières de la miniaturisation, puisqu'on est là sur un niveau infiniment plus petit que celui de nos réseaux électroniques. En outre, je rappelle que le transfert est instantané, on peut donc imaginer des supercalculateurs d'une puissance encore inimaginable aujourd'hui. C'est pourquoi l'usage d'un satellite dédié à la physique quantique est aussi un grand pas. En effet, on imagine d'ores et déjà la création d'ici quelques décennies, en supposant une poursuite des progrès dans le domaine, d'un Internet quantique, un réseau mondial de communication quantique, donc comme l'appelle PangeWay, qui espère qu'il sera établi en 2030. Donc on a encore un peu de temps. On va maintenant finir avec les sorties jeux vidéo la semaine. On a eu deux sorties sur Switch aujourd'hui, vendredi 21 juillet, avec le très attendu Splatoon 2. Et on a aussi eu Minecraft Story Mode. Pour mardi 25 juillet, on aura la sortie de Fate Extella The Humble Star qui sortira sur PC et Switch. Pyre qui sortira sur PC et PS4. Fable Fortune qui sortira sur PC et Xbox One. Mafia 3 Le Signe des Temps qui sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Super Cloud Build qui sortira sur PC et PS4, Fortnite qui sortira sur PC, PS4, Xbox One et Mac, Fallen Legend Sins of an Empire qui sortira sur PS4, Nioh Defiant Honor sur PS4, Redout sur Switch et Fallen Legend Flames of Rebellion qui sortira sur PS Vita. On aura d'autres sorties pour mercredi 26 juillet avec The Low Road qui sortira sur PC et Mac, Tisus qui sortira sur PS4 et Unbox Newbies Adventures qui sortira sur PC et Xbox One. Et les deux dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 27 juillet avec Fighting Fantasy Legends qui sortira sur PC, iOS et Android et Retro City Rampage DX qui sortira sur Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à tchèfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.